La philo-lophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra.
B comme Borges,
Bergson,
Bachelard, Bernanos,
Baudrillard,
De Beauvoir,
Bruno, Butler,
Bettelheim,
Biogo,
Suleiman, Bachir, Diagne,
Boès,
Ocas,
Bertolucci,
Babar,
Beckett.
B comme bonheur. Le bonheur d'être soi.
Nous voici donc dans le labyrinthe qu'on ne quitte jamais vraiment entièrement. Et les rencontres fatales pour soi et l'adversaire qui, nous faisant mourir plusieurs fois dans une vie, nous permettent de continuer autrement. À s'obstiner dans le labyrinthe, de rencontre en rencontre, avec les multiplications de cette figure qu'est le Minotaure, à vaincre ou à être vaincu, qu'importe, nous multiplions les effets du labyrinthe. Essayons de voir comment à s'efforcer à persévérer dans ce lieu intérieur, nous nous construisons progressivement de victoire en défaite.
Le Minotaure, une fois vaincu, souvent se relève et revient à la vie. Bien sûr, dans ces conditions, il est ô combien dangereux d'être tenté de s'en remettre alors entièrement au monde et de cesser le combat. Qu'il devienne ce monde de lui-même sous la pression et l'urgence de se raccrocher à quelque chose, l'unique détenteur de tout le sens possible. On ne risque plus la mort alors, non, seulement l'endormissement. Qu'on lui ait remis les clés de soi-même, que tout ne repose plus que sur lui hors de soi. Le Minotaure était à craindre, mais il n'y a plus rien à craindre désormais. La peur qu'il nous procurait retombe. On est comme absorbé, hors de soi. C'est la parabole que nous enseigne le conte du joueur de flûte de Hamelin, qui nous avertit, sous prétexte de facilité et de croyance, en la toute puissance d'un seul pouvoir qui pourrait tout régler, du danger de renoncer à quelque chose de personnel. Au fond, le Minotaure nous aime pour cette obstination à vouloir être soi, à faire du langage quelque chose qui ne soit pas totalement vain. C'est ainsi que dans l'histoire, les enfants sont enlevés et payent le prix fort de notre assoupissement. Que nous continuions à s'efforcer de voyager par nous-mêmes et par l'autre, c'est ce que cherche à vérifier la Sphinx à l'entrée de la ville de Thèbes, quand elle interroge celles et ceux qui se présentent. La Sphinx ne cherche pas tant à obtenir la bonne réponse à ces questions. Il ne s'agit pas d'un examen de bon élève, ni même d'une énigme qui demanderait à ce qu'on prouvât son intelligence, sa science ou sa sagesse.
Tout un chacun connaît la réponse d'Œdipe. Qu'est-ce qui marche le matin à quatre pattes, le midi à deux pattes et le soir sur trois pattes? Œdipe répond, c'est l'homme, l'être humain. À quatre pattes quand il est un nourrisson, un bébé, un jeune enfant. Il se tient sur ses deux jambes dressées quand il est plus grand, adulte, et puis vieillissant, il a besoin d'une canne pour être soutenu. La Sphinx semble satisfaite de cette réponse et le laisse entrer dans la ville, dans la cité en devenir. Mais ce devenir reste suspendu. La question ne s'arrête pas aussitôt franchi les portes de la ville. Celui qui entre l'emporte avec lui. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Une fois franchi l'épreuve, tout peut commencer. Quelque part, la Sphinx laisse sa chance à tout un chacun de développer sa propre réponse à l'intérieur de la cité. C'est là qu'un enjeu, que quelque chose se pose face à soi et que naît une responsabilité qui peut être joyeuse. En même temps, à l'intérieur de nous, simultanément, se déroule l'aventure du labyrinthe. On voit que, en miroir, la cité et le labyrinthe se répondent. Nous avons franchi la porte de la ville pour y entrer avec la réponse qu'on proposera. C'est un être humain qui la proposera, un être humain en devenir. Et l'épreuve à l'intérieur de nous, à chaque pas, à chaque tournant de la cité, nous fera rencontrer en même temps le Minotaure, dans ce labyrinthe que constitue, au fond, ce jeu de questions et de réponses qui ne cesse pas, une fois que la Sphinx nous a laissé passer.
Si Œdipe formule une réponse valable, il n'est pas sauvé pour autant, ni la ville de Thèbes de la malédiction. Et lorsque Œdipe se crèvera les yeux, il signifiera à tous que la réponse se trouvait en lui-même, dans la continuation du chemin intérieur, non pas dans l'éclat pertinent de son intelligence, qui lui apparaît alors, au long des années, une bien piètre ressource. D'ailleurs, dans la pièce de Sophocle toujours, les dialogues qu'il a avec sa fille Antigone, qui l'accompagne au long des chemins, à la fin de son destin, ne sont pas des dialogues d'intelligence. Les mots qui passent d'elle à lui et de lui à elle concernent le parfum des fleurs, la forme des branches, des arbres, la couleur du ciel, la texture du chemin. Ils sont rendus à leur présence au monde. Et cela seul compte alors à cet endroit du chemin et du destin.
Bien des années plus tard, donc, Œdipe, qui a été accueilli, fêté, qui est devenu le roi qu'on attendait et qui a régné sur la cité, est accusé d'avoir amené avec lui une malédiction. Il a permis que la peste se répande à l'intérieur de la ville. Il se crève les yeux et il s'en va avec sa fille Antigone sur les chemins. Que lui reproche la cité au fond, en allant chercher dans son passé? Quelle faute a-t-il commis? La cité associe son destin à celui d'Œdipe, celui qui est venu apporter sa réponse. Et puis, elle le bannit. Elle n'est pas encore mûre pour surmonter avec lui la force du destin. À ce moment-là, Œdipe qui s'en va, vieillit, c'est sa fille à côté de lui, sur les chemins, et il est entièrement donné au monde. C'est un très beau moment où tout respire, les arbres, les prairies, les champs, où les rencontres se font avec les paysans, les pêcheurs. Et Œdipe ne se casse pas la tête, sa fille non plus. Ils sont dans un seul élan, en communion avec l'essence même du monde. Il nous arrive aussi souvent, à force de se cogner à quelque chose, de vouloir renoncer à ce qui s'agite dans notre tête et de rechercher quelque chose de plus profond, un rapport essentiel avec cette présence au monde qui peut être si belle. Il nous arrive de déserter, parfois, la cité ou d'en être chassé. Sans bien comprendre de quelle faute nous serions responsables.
Mais pour en revenir à la moitié du chemin à cet instant où Œdipe, déjà grand, pénètre dans Thèbes. La menace qui pèse alors n'est pas tant non plus que la sphinx le dévore ou nous dévore, parce que la réponse n'aura pas été la bonne. À l'entrée de la ville, au commencement, symbole de soi-même livré à la question des débuts de la vie, tout est possible. La sphinx qui sagement repose sur ses pattes avant, monstre placé à l'entrée de la ville, les yeux plissés attentives, tandis que ses reins se soulèvent un peu en arrière, dans son corps de lionne avec son visage d'humain, cependant muni de crocs saillants, veut d'abord savoir si l'interrogé a quelque chose à lui dire, à lui raconter. Souvent, elle est déçue. Elle ne va pas alors dévorer pour la peine celle ou celui qui ne lui apprendra rien. Elle le laisse passer, tout comme notre esprit, souvent endormi, nous laisse passer à ces endroits où pourtant un sursaut eût été possible, une remarque déplacée, un élan de l'esprit inaccoutumé. Celle ou celui qui se croit alors sauvé, la sphinx l'abandonne en réalité à son ignorance. Il ou elle est perdu, mais ne le sait pas. Le chemin continue, faussement éclairé. En revanche, quelle joie, quel plaisir pour la sphinx de sentir monter le désir de dévorer celle ou celui qui, par ses souvenirs, ses histoires, son rapport unique et personnel au langage et à la vie, éveille en elle le désir de le connaître et de le posséder. La sphinx, ou la vie alors, ne prendrait donc en elle avec appétit et ne se laisserait féconder que par celle ou celui qui exprime avec ses mots, ses trouvailles, son aventure à être, et quels qu'en soient les moyens, la joie même de la quête. Les autres, elle les laisse aller à leur destinée inaccomplie. Ils hantent la ville.
Ils errent, nous errons. La cité et le labyrinthe, alors, se confondent. Nous sommes comme des fantômes, nous sommes des zombies à ce moment-là. Et nous ne sommes pas pour autant chassés, mais un flou se crée en nous-mêmes et ce flou, nous le répandons autour de nous. Il peut prendre la forme du silence, du mutisme, de la violence, de la perdition. De la perdition, se confondent. Au fond, quelle faute a commis Œdipe ? Évidemment, la réponse coutumière, c'est de dire « Ah, il a tué son père et il a couché avec sa mère. » Mais ceci ne sont peut-être que des anecdotes. La faute qu'il a commis est peut-être une faute d'orgueil. Quand il est persuadé d'avoir fait preuve de tellement d'intelligence en répondant au sphinx, quand il est si fier d'avoir passé l'épreuve, alors les anecdotes passées d'avoir tué son père en chemin et plus tard couché avec sa mère sont peut-être aussi des effets de son orgueil. Peut-être que par orgueil, il n'a plus été attentif à l'essentiel. Mais cette faute-là n'apparaîtra pas. Elle est peut-être la faute véritable d'Œdipe. Il a toute la suite de son destin pour tenter de la comprendre. Mais elle ne sera pas révélée. La cité continuera d'errer de son côté comme lui, il errera aveugle sur le chemin. Au fond, toute personne qui succombe à son orgueil, qui est persuadé d'être parvenu au sommet de ses facultés, se perd et finit par perdre les autres également. On retrouve là des enjeux qui sont ceux dans lesquels s'affrontent le pouvoir d'un côté et de l'autre la puissance. Le pouvoir qui cherche la maîtrise et le contrôle, la satisfaction de soi, et de l'autre la puissance qui se rapporte plus à la joie de la connaissance. Nous sommes accueillis au sein de la cité. Charge à nous d'entretenir ce désir, cet appétit de la vie, de nous connaître. La connaissance advient d'un appel du dehors. On ouvre la porte à la cité intérieure. Cette joie d'aller à la connaissance renforcera notre humanité et se propagera autour de nous. Mais si par orgueil ou désespoir, nous y renonçons, alors à l'intérieur, dans le labyrinthe, ce n'est pas tant que le Minotaure a vaincu, mais il est entré en nous. Il a pris le contrôle et nous devenons sa marionnette.
Celle ou celui qui n'accède plus ou renonce à la quête de sens, au fruit du langage, à la construction de son être ou de son âme, tombe alors dans ce que Nietzsche a nommé le ressentiment. La vie ne le désire plus. Il n'y a plus de chemin en soi pour atteindre quelque chose qui vaille la peine. Le monde tout-puissant nous a dévorés au-dedans et ravit toute jubilation d'être et d'exister par nous-mêmes. Le danger est permanent. Nous en voulons alors à ce monde en entier de cette inutilité qui pèse. L'impossibilité de se rejoindre, de se retrouver, nous rend amers. Le monde n'est pas absurde, mais vide. Un dégoût de soi et de l'autre monte et rend tout haïssable et sans issue. Alors vient la seule ressource possible, à l'inverse de toute joie, la vengeance, que l'on porte contre l'autre, qui ne participe plus de notre construction, mais devient insensiblement l'ultime adversaire à vaincre, cible de notre amertume qui peut être dévastatrice.
Dévastatrice pour qui et pourquoi? Sans avoir pris le temps de parler avec lui, la cité a rejeté celui qui était venu à elle, plein de promesses. Elle lui a laissé croire qu'il avait commis un crime irréparable. Il a préféré perdre la vue et s'en aller et retrouver l'essence du monde. Sa fille, sa descendance, celle qui prendra le relais de l'existence, l'accompagne. Laissons Œdipe sur son chemin et revenons à Thèbes, au destin de la cité. C'est une faute partagée. Thèbes est une cité en devenir. Ça n'est pas encore Athènes, l'Athènes politique. C'est encore un peu la cité des vieilles croyances et des vieux pouvoirs. Quelle sera la suite de son destin ? Cela dépendra du choix de chacune et de chacun. Au moment de la quête, au moment d'entrer joyeusement dans la connaissance, il se peut que notre orgueil, qu'un adversaire nous pousse au renoncement. Et de renoncement en renoncement, nous favorisons l'établissement des pouvoirs. Nous aidons la société à proliférer par-dessus et à l'intérieur de la cité. Cette société qui est comme son double, obscurcie, déformée, dans lequel chacun et chacune peine à se retrouver. Un destin, notre destin engage toute la cité. Renoncer au bonheur de soi, c'est renoncer à l'épreuve du labyrinthe et à celle du langage, à la responsabilité joyeuse de ce combat, c'est laisser la cité à l'abandon. Envahie par les loups, la sphinx a perdu ses ailes et son visage est devenu celui d'une bête. Renonçant à poser ses questions à l'entrée de la ville, joyeuse de nos promesses, elle est devenue, par notre faute, l'arme de notre destruction. Et je terminerai juste par ce poème de Jim Morrison, extrait de son recueil « Les nouvelles créatures ». Osez-vous nier ma puissance, ma gentillesse, ma clémence ? Essayez, vous serez frit comme les autres dans la sainteté. Et même pour un sou, je ne vous accorderai pas de temps, enfant fantôme, là-bas, dans le monde effrayant. Vous êtes seul et vous n'avez pas besoin de l'autre, vous et votre mère, enfant, qui vous porta, qui vous sevra, qui fit de vous un homme. La philo-lophie, un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.